Europe 1,
11h30,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mélanie.
Bonjour Julia, bonjour tout le monde.
Vous êtes dans Bien fait pour vous, votre émission consacrée au bien-être, au mieux vivre et à votre santé. C'est tous les jours en direct de 11h à 12h30. Alors aujourd'hui Mélanie, quel est notre programme ?
Julia, aujourd'hui on va commencer comme tous les jours en se posant ensemble une question. Comment surmonter le cancer en couple ? Dans Bien fait pour vous, on s'engage pour Octobre Rose, le mois de lutte contre le cancer du sein. Et on donne la parole donc à celles et ceux qui ont traversé cela. Alice de Tolenaer et son compagnon Camille Lacour, le champion de natation, seront avec nous pour nous livrer ce combat qu'ils ont mené ensemble contre la maladie.
Ensuite, à 11h35, on passera à notre dossier santé du jour, consacré aujourd'hui à l'alimentation des enfants. Saviez-vous qu'un enfant sur deux souffre de faim insoupçonnée ? En fait, en consommant en excès des produits ultra transformés au détriment d'aliments sains, ils ne reçoivent pas les bonnes choses, les vitamines par exemple, nécessaires à leur bon développement. Et bien ici, on vous donnera le mode d'emploi des enfants qui se nourrissent bien et normalement, à la fin de ce dossier, vous arrivez même à faire respecter le fameux 5 fruits et légumes par jour.
Pas mal. Ensuite, dès midi, ce sera notre tour de table des tendances avec chaque jour nos bons plans, nos astuces et de la gastronomie bien sûr. Ce midi, c'est le chef Abdel Alaoui qui va combler nos estomacs avec un truc d'ailleurs que les enfants adorent, enfin les miens en tout cas. Il y aura des boulettes au menu.
Ah, ouais.
Ensuite, comme on aura probablement pris quelques kilos avec Abdel, eh ben, il faudra peut-être un peu rentrer le ventre et nous on va aller direct au bloc opératoire, on y va fort avec le docteur Aurène Marco qui nous dira tout aujourd'hui sur les dernières techniques d'abdominoplastie. En gros, des boulettes mais un ventre plat, dans Bien fait pour vous, tout est possible.
Hein. Ah, ça, c'est un beau programme. Et enfin, pour finir ce tour de table des tendances, notre coach sportif, Jean-Marc Delorme, nous a promis lui aussi une chronique très utile, en plus avec une punchline hyper séduisante. Il nous donnera les exercices de sport qu'on peut faire pour, je le cite, avoir un boule qui chamboule. Je crois qu'on sera au top hein, dans 1h30, Mélanie.
Europe 1.
Bien fait pour vous, vous êtes sur Europe 1 bien sûr et donc aujourd'hui dans votre magazine Bien-être, on va se poser cette question très importante. On est en octobre, mois de sensibilisation contre le cancer du sein, mais cette question elle est valable toute l'année évidemment. Comment surmonter le cancer en couple ?
Et oui Mélanie, car c'est un sujet très important cette maladie. Elle impacte bien sûr le quotidien de la personne qui est touchée par le cancer, mais évidemment c'est une épreuve également pour les proches et pour les couples en particulier. On va donner la parole dans un instant à l'un d'entre eux, mais avant cela c'est Clément Lanoux qui a été enquêté.
Bonjour.
Sur ce sujet. Bonjour. J'avoue, hein, Clément, que c'est
quelle
pas
mission,
évident.
Mais quelle ouais, mission.
C'est pas évident de tendre le micro avec cette question, mais je suis sûre qu'on va apprendre plein de choses et même peut-être
j'espère,
sourire.
J'espère en tout cas. Si vous nous rejoignez pour la première fois, sachez que mon rôle ici, c'est de partir avec un micro et d'introduire un peu le sujet du jour. Donc j'ai eu droit à des sujets comme le porno est-il indispensable dans la vie ? Comment bien gérer ses enfants ? Est-ce que le yoga est important ? Et aujourd'hui, on m'a dit, tiens, pas justement. Et essaie de nous faire rire avec ce sujet. Est-ce que le cancer est dur à surmonter dans le couple ? Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris un micro, je suis allé un petit peu me promener dans la rue et j'ai établi un peu tel Didier Deschamps, une espèce de règle des réponses que j'ai reçues. Règle numéro 1, apparemment, il faut voir le couple comme une équipe.
Bah, je pense qu'il faut se dire déjà qu'être deux à ce moment-là, c'est une chance. Et quand on a envie de baisser les bras, l'autre nous soutient et nous donne la force de se battre.
Règle numéro 2, pas mal, pas mal. Règle numéro 2, mettre toute l'énergie que fabrique le couple, justement, sur l'essentiel.
Je pense que c'est un combat qui doit se mener à deux. Il ne faut pas perdre l'énergie en dispute. Il faut plutôt être à l'écoute au maximum de son partenaire.
S'écouter, ne pas s'embrouiller. Quand on a envie de s'embrouiller, se dire « Ok, on met l'énergie ailleurs, on y va ». Règle numéro 3, être optimiste, toujours optimiste.
Dans la vie de couple, il y a plein d'obstacles, des petits, des grands, certains qui paraissent insurmontables, comme cette maladie. C'est parfois un geste cruel, mais au fond de moi, je pense que rien n'est insurmontable. Enfin, c'est ce que j'espère.
Vous êtes parti comme un coach sportif, en fait.
Je me suis dit, je ne vais pas faire des vannes aujourd'hui. Je vais justement essayer de synthétiser un peu tous les messages que j'ai pu recevoir. Règle numéro 4, le regard des autres.
Moi, ce qui m'a aidé vraiment, c'est que mon partenaire, en fait, m'a jamais vu comme quelqu'un de malade. On a continué à mener notre vie normalement. Il m'a toujours considéré comme quelqu'un de normal. Il n'a pas fait en sorte que je me sente différente. Et du coup, ça m'a donné cette impression justement de guérison et ça m'a vraiment aidé.
J'espère que ça vous aidera si vous nous écoutez. Enfin, j'ai un dernier conseil. Alors, je vais faire appel à un spécialiste. C'est ce qu'aurait fait un vrai journaliste. Puis après, je suis plutôt humoriste, je suis pas journaliste. Donc, j'ai fait appel à un enfant de 6 ans,
ah,
mais
bien.
Qui a eu la réponse qu'auraient eu tous les médecins finalement. On termine avec ce vrai conseil qui résume tout.
Mais moi, je suis pas médecin, mais
Je pense qu'il faut faire plein de bisous et donner plein d'amour.
Bah, moi, je crois que c'est le meilleur.
C'est ce que je retiendrai.
On leur demandera à nos invités si effectivement c'est passé par les bisous et les câlins, on en est sûr. Merci beaucoup Clément Lanoux. On vous retrouve demain avec un nouveau reportage sur notre sujet du jour. Mais tout de suite, donc, il est temps d'accueillir nos deux invités pour répondre plus précisément à notre question d'aujourd'hui. Comment surmonter le cancer en couple? Alors tous les deux, ils sont passés par cette épreuve. Alice de Tolenaer et Camille Lacour. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors Alice, vous êtes mannequin et vous publiez ce livre « Guéri par ton amour » aux éditions Le Duc. Vous pensez vraiment, au fond de vous, que votre couple, et donc Camille, y est pour beaucoup quand même dans votre combat victorieux contre le cancer du sein?
Alors déjà, ce livre, je l'ai écrit, donc il s'appelle « Guéri par ton amour ». Le terme ne serait pas correct vis-à-vis de la médecine, puisque pour m'estimer guéri, il faudrait que j'attende d'avoir terminé ma rémission. Et c'est pour ça que finalement, je trouvais qu'il avait toute sa valeur ici, puisque je ne parle pas que de la médecine. Je parle aussi du fait que Camille m'a guéri dans ma relation que j'avais avec les hommes, dans la relation que j'avais avec moi-même, dans la confiance que je mettais en moi. Et c'est pour ça que la clé, de toute façon, pour aider quelqu'un à guérir, c'est d'abord, il faut le soigner à l'intérieur avant de le soigner à l'extérieur.
Donc c'est quand même une déclaration d'amour que vous faites à votre chérie. Complètement. Ce que je comprends. Je ne sais pas si vous l'avez pris comme ça, Camille Lacour. Je rappelle que vous êtes quintuple champion du monde et d'Europe de natation. Est-ce que quand vous avez lu le livre de votre compagne, vous avez appris des choses qu'elle ne vous avait jamais dites pendant son combat?
Je ne crois pas. Je crois qu'on avait parlé un petit peu de tout. C'est vrai que c'est un peu mieux expliqué. Il y a beaucoup de choses de son passé qu'on a passé assez rapidement. Mais c'est ce que j'aime dans ce livre, on parle évidemment du cancer, de cette lutte, mais on parle aussi d'une histoire d'une femme forte qui part de sa campagne pour aller visiter Hong Kong, New York, pour aller travailler là-bas pendant de nombreuses années. Et voilà, c'est une belle histoire aussi un changement de caractère, au fur et à mesure.
Alice, vous dites dans le bouquin que vous aviez peur, donc au moment du diagnostic, d'annoncer à votre entourage que vous étiez atteinte par un cancer. Et puis finalement, vous l'avez annoncé, mais un peu plus tard, sur les réseaux sociaux, vous écrivez même ce livre. Pourquoi cette démarche comme ça qui a pris du temps, finalement?
Alors oui, c'est vrai que je l'ai annoncé presque un peu brutalement à tout le monde d'un coup sur les réseaux sociaux. En fait, il faut du temps au début pour admettre ce qui se passe et puis pour le comprendre aussi, puisque forcément un diagnostic, c'est pas quelque chose de très clair au début quand on arrive, ça c'est dans les films, mais quand on va chez le docteur, il y a que des suppositions. Après, il faut faire encore beaucoup d'examens médicaux pour essayer vraiment d'étayer un diagnostic. Donc déjà, il faut le comprendre, après il faut l'admettre, et puis après il faut le dire, et le dire c'est très compliqué puisque on n'a pas envie de faire de la peine aux autres. Et puis moi, pour ma part, je pense que c'était même quelque chose d'égoïste, puisque je ne voulais pas assumer la tristesse dans le regard de mes proches.
Alors Alice de Tolenaer et Camille Lacour, vous ne bougez pas, on ne fait que commencer cet entretien ensemble. On va voir juste après comment s'est passé justement un peu plus en détail ce combat contre le cancer que vous avez affronté ensemble. Et d'ailleurs, il y aura Caroline Veil, psychologue et spécialiste des problématiques de couple qui va nous rejoindre pour parler également de ces couples qui traversent cette épreuve du cancer et que la maladie sépare parfois. Alors comment les aider ceux-là? On y revient très vite sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Tout l'amour que j'ai pour toi est plus fort chaque jour. Je crois bien qu'il durera pour la vie, pour toujours.
Et bien justement, nous allons parler d'amour. Bienvenue dans Bien fait pour vous, votre magazine bien-être dans lequel on tente de vous faciliter la vie tous les jours, y compris quand une maladie comme le cancer du sein débarque et bouleverse tout sur son passage. On est en pleine opération Octobre Rose et donc ce matin, notre question est celle-ci. Comment surmonter le cancer du sein en couple? Et bien justement, pour nous raconter leur combat à tous les deux, ils sont avec nous. Alice de Tolenaer, vous êtes mannequin et l'auteur du livre « Guéri par ton amour » chez Le Duc. Votre compagnon de combat et dans la vie et là aussi dans ce studio, c'est Camille Lacour. Alors, on va reprendre l'histoire depuis le début. Comment ça s'est passé le diagnostic très concrètement de votre côté d'abord, Alice?
Alors, tout d'abord, je pratiquais souvent l'autopalpation, puisque dans ma famille, je savais que il y avait des prédispositions au cancer. Bon, après, je le faisais, mais sans forcément y croire absolument. Et un jour, j'ai senti une boule. Donc, je suis allée chez un médecin qui a ordonné une mammographie. Et puis à la mammographie, bon, ils avaient un petit doute. Ils me disaient non, mais vous en faites pas, c'est pas grave. C'est juste que comme vous avez déjà eu des cancers dans votre famille, il faut quand même qu'on vérifie. Mais c'est sûr qu'il y aura rien. Bon, après, je fais la biopsie. D'ailleurs, le docteur qui me fait pratiquer cette biopsie me dit. Parce qu'en fait, il reconnaît Camille et du coup, je pense qu'il veut être très gentil avec nous, très rassurant. Et il nous adore, il n'arrête pas de poser des questions de sport et tout. Et il dit, mais vous en faites pas, vous correspondez pas du tout au profil. Mmh. 99,9%, c'est sûr que vous aurez rien.
Donc il vous rassure énormément.
Il me rassure énormément. Après,
et de trop, finalement.
Ben, un petit peu trop, mais après, c'est pas, enfin, je n'en veux même pas à ce docteur. Juste, je pense qu'il voulait être gentil. Puis en plus, les termes qu'il avançait étaient, enfin, les chiffres qu'il avançait n'étaient pas incorrects. Mmh. Puisque, effectivement, j'avais même pas 1% de chance d'être concernée.
Vous aviez quel âge à l'époque?
32 ans. Mmh. Et puis finalement, c'est pour ça que moi, psychologiquement, je ne me suis pas préparée, puisque je suis retournée à ma vie et on est en train d'aménager dans notre premier appartement ensemble avec Camille. Donc on avait déjà prévu la chambre en plus parce qu'on s'était dit, allez, bientôt, on fera notre petit bébé et tout. Donc bah, c'est sûr que quand on m'a appelée pour m'annoncer la mauvaise nouvelle, ça a été une douche froide pour nous deux.
Bon, et justement, vous, Camille Lacour, comment vous l'avez appris, ce diagnostic? Comment elle vous l'a annoncé? Quelle a été votre première réaction, si je puis dire?
C'est vrai que quand on fait déjà la biopsie, vu que le docteur nous rassure vraiment, on sort de là, on l'oublie complètement, quoi. On repart à notre vie. Mm-hmm. Et quand elle m'appelle, elle sort du travail et elle me dit « J'ai eu le docteur, il y a eu les résultats et ils ne sont pas bons, il faut qu'on aille le voir le demain. Mm-hmm. » Donc on sait très bien ce que ça veut dire « ils ne sont pas bons ». On ne sait pas à quel point ce n'est pas bon, mais on sait exactement ce que ça veut dire. Et donc, c'est clair qu'on n'était pas préparés parce qu'on les avait oubliés, mais je pense que de toute façon, on n'est jamais préparés. Et là, je pense qu'il faut prendre le temps de digérer cette hypercute qui fait mal. Et puis ensuite, il faut commencer à avancer, quoi. Mais c'est vrai que c'est une bonne douche froide.
Alors Alice, ce qui est assez touchant dans votre livre, c'est que vous écrivez que vous avez hésité à en parler à Camille au départ. Et votre terme, c'est que vous dites que vous lui laissiez une porte de sortie, c'est-à-dire l'autorisation de vous quitter après cette mauvaise nouvelle. Pourquoi ?
Bah, tout simplement parce que ça faisait un an qu'on était ensemble. Et que je me suis dit, Camille, il est beau, il est célèbre, il a une petite fille qui est extraordinaire, sa vie, elle est belle. Je veux dire, j'avais pas envie d'apporter, j'avais même honte d'apporter du malheur dans leur vie. Et j'ai beaucoup culpabilisé vis-à-vis de ça et je voulais lui donner l'opportunité de partir s'il en avait envie et je l'aurais compris. Voilà, tout simplement.
Justement, Caroline Veil, vous êtes avec nous également en studio. Vous êtes psychologue clinicienne et psychanalyste. Vous avez vu beaucoup de couples traverser ce type d'épreuve, je crois.
Oui.
Est-ce que c'est courant, la réaction finalement d'Alice, de pas vouloir s'imposer, d'imposer la maladie à l'autre comme ça?
C'est-à-dire qu'il y a d'abord, quand on apprend la maladie, il y a un choc de sidération. On est dans l'incrédulité de ce qui vient de vous arriver. Donc on a besoin déjà d'absorber soi-même la nouvelle, de la digérer, comme disait Camille. Mais une fois qu'on l'a digéré, d'un seul coup s'ouvre l'inconnu. Et un inconnu qui est terrible. Donc on se sent, comme elle vient de le dire, Alice, très coupable. Mmh. Est-ce que je suis en mesure d'infliger ça à l'autre? Est-ce que je ne vais pas être un poids, un fardeau? Comment je vais faire? Et puis on se dit aussi, est-ce que je ne serais pas mieux toute seule pour traverser ce qui va m'arriver? Est-ce que l'autre va être à la hauteur? On a peur aussi de la réaction et de tout le processus de transformation de la relation que ça va engendrer. Donc oui, effectivement, il y en a qui peuvent avoir une réaction de fuite, comme ça, mais dans un premier temps.
Et Caroline, est-ce qu'à l'inverse, on peut aussi trop vouloir se reposer sur son couple, en se disant que l'autre est là pour soi et qu'il faut qu'il le soit quoi qu'il en coûte? Est-ce que ça aussi, ça peut arriver? Et quel est le juste milieu alors?
Alors écoutez, dans un couple, si la femme à qui ça arrive, elle avait l'habitude d'être soutenue par son partenaire, elle va devenir encore plus demandeuse et encore plus dépendante. Mmh. Voilà, ça c'est un fait. Donc tout dépend, parce qu'il va y avoir un bouleversement des rôles. C'est-à-dire que si vous avez au contraire une femme qui est très maternante, d'un seul coup elle va avoir besoin de soutien, elle va avoir besoin d'aide. Donc oui, ça arrive que les gens se disent, bon bah de toute façon il est là, et puis on lâche tout. Maintenant il faut bien voir aussi que l'institution, ce qui va vous arriver, les hôpitaux favorisent cet état agressif, c'est-à-dire qu'on vous prend complètement en charge et vous êtes soutenu. Donc, quelquefois, vous vous attendez à avoir le même soutien à l'extérieur, ce qui n'est pas forcément le cas.
Alors Alice, bien sûr, vous avez eu Camille à vos côtés tout le long de cette épreuve, mais ça n'a pas été le seul de vos soutiens. Vous avez aussi votre meilleure amie Auriane, vous en parlez dans le livre, qui a été un énorme soutien. C'est important de multiplier les soutiens, je veux dire. Voilà.
Oui, bien sûr, hein, ça c'est évident. Puisque je pense qu'en plus, on ne s'adresse pas de la même façon à son homme qu'à sa meilleure amie. On ne peut pas partager les mêmes choses. Mais de toute façon, moi, au bout d'un moment, je ne voulais pas non plus tout le temps que Camille m'accompagne. Bon, déjà parce que, et ça, ce n'est pas quelque chose qui s'applique à la majorité des gens, mais parce que sa notoriété, elle était quand même un petit peu aussi lourde à porter.
Bien sûr.
Parce que, bon, quand on va à l'hôpital et que tout le monde le reconnaît, ce n'est pas forcément évident. On a envie
alors
que
c'est vous, là, en plus, qui était là pour vous et pour votre santé.
Exactement. Et puis aussi parce que je pense que, comme vous disiez tout à l'heure, c'est bien d'économiser aussi un petit peu la personne avec qui on est. On ne peut pas non plus que se reposer sur une seule personne, parce que si on lui use toutes ses batteries, après on est deux à être dans le noir.
Oui, bien sûr. D'ailleurs, Camille, vous avez eu peur de perdre Alice et de ne pas être à la hauteur justement du soutien qu'elle vous demandait, ou est-ce que vous êtes mis la pression aussi ?
Non, c'est vrai que quand elle m'a laissé cette porte de sortie, je l'ai fermée direct en étant très clair et tout simplement, et je suis toujours fou amoureux, donc c'était inconcevable de la laisser seule et je pouvais plus me regarder dans une glace de tout du reste.
Ils se font
vie.
Des petits cœurs avec les doigts. Il y a beaucoup d'amour. On parle de maladie, mais on sent beaucoup d'amour. Vous avez beaucoup de chance d'avoir traversé les choses comme ça, mais on est d'accord, Caroline Veil, c'est pas toujours le cas. Il y a beaucoup de couples qui traversent cette épreuve, en se séparant ou des femmes qui se retrouvent seules parfois. Je parle du cancer du sein encore
oui,
une fois.
Oui, tout à fait. Si vous voulez, la maladie fait l'effet d'un cataclysme. Alors, je voudrais surtout pas que vous pensiez que les hommes sont dans la fuite. Il y a d'abord ceux qui sont dans le déni dans un premier temps, mais il ne faut pas oublier que le déni c'est un mécanisme de défense contre l'angoisse. Donc au départ ils peuvent s'absorber dans un mutisme, une fausse indifférence pour que le couple reste en l'état, rien ne doit changer, on est comme avant. Mais les femmes, elles prennent cette indifférence ou en tout cas ce mutisme comme une agression contre elles ne le vivent pas bien, elles pensent que c'est de l'indifférence et que donc elles ne vont pas être soutenues. Et puis il y a aussi, et ça c'est important de le dire, la maladie redéfinit les priorités. Voilà, quand on est malade d'un seul coup, c'est-à-dire que ce ne sont pas seulement les hommes qui partent, ce sont aussi les femmes. Elles se rendent compte quelquefois, mais oui, c'est-à-dire que si un couple allait bien avant, il va continuer d'aller bien.
Ah, mais elles se rendent compte que ce n'est pas avec lui qu'elles ont envie de traverser ça parfois.
Que ce n'est finalement pas la vie qu'elles ont envie de vivre. Elles redéfinissent leurs priorités, ce n'est pas ce que je voulais, ce n'est pas ce que j'attends du couple, ce n'est pas comme ça que j'ai envie de vivre. Voilà, donc ce ne sont pas seulement les hommes, ce sont aussi les femmes qui partent.
Je crois que les études disent que 30% des hommes quittent leur conjointe lors du diagnostic ou pendant la maladie. C'est énorme. Hein
c'est énorme et c'est un fait. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui ne se sentent pas capables d'assumer leur impuissance face à la maladie. D'un seul coup, ils perdent leur statut d'homme fort, protecteur, et ils préfèrent prendre la fuite. Ils peuvent être aussi dans le déni. Il y en a aussi qui partent et puis qui reviennent.
Bien sûr.
Il ne faut pas être totalement négatif.
Alors Alice et Camille, est-ce que vous, pendant la maladie, vous avez été suivie par un psychologue ? Est-ce que vous en avez eu besoin ?
Alors, on n'avait pas de psychologue, mais moi, j'ai toujours des contacts avec mes préparateurs mentaux que j'avais quand j'étais en carrière de sportif. Et c'est vrai qu'ils m'ont beaucoup aidé à anticiper tout ce qui allait se passer, en fait.
Parce que, donc, vous avez eu un soutien psychologique d'une certaine façon, quand même, avec ces préparateurs, en fait.
Ouais, certaine façon. Ouais. J'essayais vraiment d'anticiper tout ce qui allait se passer, un peu les sauts d'humeur, les difficultés et tout ça, et essayer de ne pas le prendre pour moi, justement, qu'en fait, c'était plus contre elle et même contre sa maladie que contre moi. Donc voilà, ça m'a beaucoup aidé d'anticipation.
Et Alice, je crois que donc justement, on a bien compris, Camille est restée à vos côtés tout du long de cette épreuve. Mais par contre, vous, à un moment donné, vous l'avez un peu exclue, c'est-à-dire au moins de l'hôpital. Vous ne vouliez plus qu'il vous accompagne. Pourquoi cette réaction ?
Parce que j'avais besoin vraiment de recentrer les choses sur moi. Parce que, alors, c'est vraiment attrait à sa notoriété. Hein.
Ça peut être lourd.
Ouais, et même quand les gens, en fait, nous font des faveurs, je trouve que c'est toujours au désavantage, finalement, du malade. J'avais pas envie, finalement, qu'on me fasse des traitements de faveur ou que J'avais juste envie que on s'occupe de moi comme
une femme comme une autre dans le cancer du sein.
Voilà, exactement. Ça, hein. Parce que finalement, on est trop gentil, on veut nous rassurer, mais ça aide pas.
Ça décentre presque le problème. Quoi. Les gens se concentrent sur votre compagnon alors que vous êtes une patiente et vous avez besoin de l'attention pour vous.
Exactement.
Fait. C'était ça. Je crois qu'après la guérison, hein, vous êtes allé voir ensemble un thérapeute de couple, c'est bien ça ?
Oui.
Vous en aviez besoin ? C'était pourquoi ?
Je pense que c'était indispensable puisque il y a eu un moment un petit peu dur, justement, et je pense que c'est complètement l'après-événement. Notre couple, il a été solide pendant toute la durée des événements, et puis après, ça a commencé à
battre un peu de l'aile, quoi.
Exactement. Et je pense que on n'avait pas conscience que c'était l'après-événement. Donc, on a été voir cette thérapeute. Ça s'est très mal passé. Moi, je suis partie en claquant la porte et tout ça. Et puis finalement, je l'ai pas écrit dans le livre, mais c'est elle qui nous a écrit pour nous dire, mais vous m'avez pas dit que vous aviez eu un cancer. Mais c'est évident ce qui se passe. Et je me suis dit, mais elle est complètement nulle, elle, qu'est-ce qu'elle raconte, ça n'a rien à voir.
Et en fait,
elle avait raison. Ouais. Et c'est elle qui nous a débloqué. Mais même quand elle nous l'a dit, on a mis énormément de temps à le comprendre. Mmh. Et moi, c'est vraiment en écrivant et en revivant les choses qu'avec du recul, j'ai compris.
Bon, merci à tous les trois. On va rester encore un peu ensemble. On a d'autres questions pour vous, Alice, Camille. Merci beaucoup, Caroline Veil, d'avoir été avec nous. D'ailleurs, vous qui nous écoutez, c'est le moment. Vous pouvez nous joindre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur le hashtag Europe 1 ou encore au 3921, notre répondeur.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors, on tente ce matin de répondre à cette question. Comment surmonter le cancer en couple ? Et pour en parler, justement, eux, ils sont passés par cette épreuve qu'ils ont traversée main dans la main. Ce sont Alice de Tolenaer et Camille Lacour. Et donc, on va passer aux questions de nos auditeurs, auditrices. On a par exemple Michel à Périgueux qui s'adresse à vous, Camille Lacour. Son épouse vient d'être diagnostiquée il y a une semaine. Les médecins ont dit qu'elle s'en sortirait, mais qu'ils étaient partis pour un an de traitement. Et donc, ils vous demandent très concrètement, que dit-on au quotidien à la femme qu'on aime pour qu'elle continue à se battre et qu'elle reste positive? Je ne sais pas si vous avez un conseil à donner, c'est toujours délicat, mais néanmoins, qu'est-ce qu'on peut conseiller?
Un conseil, je ne sais pas, en tout cas, je pense que de dire ce qu'on a sur notre cœur. Aussi de garder une réserve, parce que évidemment on n'est pas malade, mais par contre d'être honnête aussi avec la personne. Moi, j'étais toujours là, j'essayais vraiment de lui dire qu'elle était belle, parce que je le pensais. N'essayons pas de mentir non plus, parce que ça va se voir au bout d'un moment, mais essayer d'anticiper. Je pense que c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, quand il y a de l'anxiété, c'est pas contre soi, c'est plus contre la maladie. Donc essayer de lisser tout ça.
Et se faire aider quand on est aidant aussi, c'est important, non, Alice? Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent de ceux qui sont à côté.
Aider les aidants,
oui. Oui, bien sûr. De toute façon, une maladie, on la porte à plusieurs. Après, la personne qui est malade, elle la porte physiquement, mais l'accompagnant, il la porte psychologiquement. Hein. De toute façon, il y a un impact sur tout le monde. Donc c'est vraiment important que les accompagnants y soient aidés. Et chacun doit trouver, de toute façon, sa thérapie. Moi, j'ai écrit personnellement. Camille, il avait ses amis, il allait beaucoup boire des cafés et puis il en parlait pas mal. Mais il y a des gens, ils le trouvent dans le sport et d'autres... puisque même quand on est malade, on peut faire du sport en plus.
Bien sûr. Vous êtes vous-même très sportive. Hein,
oui.
Est-ce que vous pensez d'ailleurs que ce mental de sportif qui vous rassemble, ça vous a aidé dans le combat de la maladie ?
Ouais, complètement.
Ah ouais.
Ouais, Camille, de toute façon, il a un mental de champion et ça, c'est quelque chose qu'il a dans tous les domaines. Donc, dans celui-là, c'était.
Et il a insufflé ça chez vous aussi ?
Ouais. Bon, après, j'avais.
Enfin, vous avez j'ai quand même bonne championne
ouais,
aussi,
hein, moi je trouve. Mental.
Complètement.
Ouais. Et vous l'avez aidé, je crois aussi, Camille, à se rapproprier votre nouveau corps et cette nouvelle poitrine. Comment vous avez procédé ? Parce que ça, c'est assez délicat, non ?
Eh bien, c'est vrai que lui, il a été complètement dans l'anticipation, c'est ce qu'il décrit. Parce que moi, je me disais, j'étais tellement contente finalement qu'on ait trouvé une solution que j'allais avoir une reconstruction directe. Je me disais, ça va être comme si j'avais encore mon sein. Alors,
pour rappeler à nos auditeurs qui ne sauraient pas encore, hein, je vous invite à lire le livre, hein, Guéri par ton amour. Vous avez eu donc l'opération du sein, la mastectomie, et en même temps la reconstruction. On vous a posé même la prothèse. Et donc,
J'ai eu de la chance. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Mais c'est vrai que j'aurais dû peut-être plus me préparer. En me disant, mais ça sera plus ton sein, c'est quelque chose de différent, c'est quelque chose qu'on ne sent plus, il n'y a plus de sensation. Moi, je m'attendais à avoir de la douleur et en fait, j'ai eu une absence de sensation et ça m'a choquée. Oui. Et même aujourd'hui, je ne sens plus mon sein. Mais ce n'est pas grave, maintenant, je me suis habituée et tout ça. Et du coup, j'avais beaucoup de mal à me l'approprier, à l'aimer, parce que je sentais juste une enclume sur moi. Et Camille, en fait, lui, il savait tout ça, il avait réfléchi parce qu'il s'était déjà renseigné et tout ça. Donc lui, je pense qu'il a aimé ce sein avant moi. Bon, c'est bien aussi.
C'est bien.
Ça vous a aidé du coup.
C'est bien. Alors, je crois, Alice, vous avez également fondé un site, hein, c'est ça, un site web, notaboops.com, qui fait de la prévention et qui explique avec des mots très simples la réalité du cancer du sein. Est-ce que c'est important pour vous d'informer sur cette maladie ?
Alors, c'est important et c'est important aussi de faire de la prévention, puisque, bon, bah, là, c'est Octobre Rose, mais il faut le rappeler toute l'année. On pense que chaque année, avec toute cette prévention, justement, les femmes vont de plus en plus se faire dépister, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. C'est de moins en moins chaque année.
Et puis avec le confinement, ça n'a pas arrangé les choses.
Exactement, c'est aussi pour cette raison. En tout cas, je pense que la base, c'est de commencer par l'autopalpation. Parce qu'il y a énormément
plutôt
de femmes.
Le dépistage, c'est pour les femmes de plus de 50 ans, mais vous voyez, vous avez effectivement eu un cancer à 32 ans, donc il faut se toucher, se faire ausculter régulièrement, c'est même jeune. Hein.
Voilà, c'est le premier geste, et je pense qu'il faut absolument transmettre ce geste de mère en fille et de copine à copine. Mmh.
Sous la douche, on peut faire ça. Voilà, c'est une ça fois par mois à peu près, c'est pas mal.
Non, une fois toutes les semaines.
Mais parce que ça. Elle est très cautionneuse.
Hein. Non, mais ça prend 10 secondes, c'est rien. C'est 10 secondes, on touche, hop, hop, hop. Et
sans
puis
oublier
c'est bon.
Le dessous de l'aisselle, hein, bien sûr.
Voilà, exactement. Mais en plus, il y a plein de... Moi, je l'ai mis sur mon site Notaboobs. Mais
il y a la technique pour s'autopalper sur le site, vous
voilà,
expliquez.
Voilà, ouais. Il y a des petits schémas. Mais
sur
y a
le
aussi,
livre aussi, d'ailleurs.
À la fin du livre également. Mais après, sur tous les sites de prévention et sur YouTube.
Et s'il y a le moindre doute, évidemment, on file direct chez le médecin.
Exactement.
Et c'est ce que vous avez fait d'ailleurs. Et ça vous a sûrement sauvé la vie aussi.
Bon,
et je rappelle votre site, hein, Notaboobs, ça s'écrit notabobs.com. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus témoigner ce matin de votre combat contre le cancer du sein, combat que vous avez mené main dans la main en couple, on l'a compris. Alors je rappelle évidemment votre livre dans lequel vous racontez votre expérience, le livre d'Alice, donc c'est Guéri par ton amour chez Le Duc Édition. Merci.
Oui, merci à tous les deux. Alors à présent Mélanie, on va changer de thématique et on va parler de l'alimentation des enfants, mais attention la bonne, hein, celle qui leur permet un bon développement, une bonne croissance. C'est notre dossier santé du jour.
Europe 1, 11h, 12h30.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
On passe donc dans l'assiette de nos enfants à présent et pour regarder précisément ce qui s'y trouve ou pas malheureusement, il est avec nous en studio, pas vous, pas malheureusement que vous soyez là, mais malheureusement dans l'assiette de nos enfants, docteur Jérémy Lafrère, vous êtes docteur en sciences cognitives à l'Institut Paul Bocuse, bonjour.
Bonjour.
Bon, elle est également en ligne avec nous, c'est Audrey Zucchini, vous êtes entrepreneuse et l'autrice du livre La fin des haricots aux éditions Marabout. Audrey, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, contrairement à ce que l'on pense, c'est dans les pays les plus pauvres où les enfants mangent le plus sainement. C'est dingue, ça.
Oui, alors, en fait, si l'on considère les pays où on peut manger à sa faim, mais effectivement, oui, c'est le cas. Les enfants qui vivent dans les pays les plus pauvres ont un régime alimentaire plus sain que les enfants qui sont issus des pays riches.
Parce que pas de produits transformés, c'est ça ?
Exactement. Nous, en fait, pour l'illustrer, on s'est servi du travail du photographe de Greg Segal, en fait, qu'on a intégré à la fin des haricots, le livre qui sort demain. Et en fait, c'est un photographe qui a demandé aux enfants du monde entier de lister ce qu'ils mangeaient au cours d'une semaine. Mm-hmm. Et puis ces derniers, ensuite, ils ont posé, allongés au sol, entourés des aliments cités. Et en fait, ça donne une image très précise de ce qu'ils mangent. Et ainsi, en fait, on constate que certains enfants qui habitent dans des zones sauvages ou dans des bidonvilles, ils prennent des repas qui sont faits maison, à partir d'aliments bruts, locaux, parce que c'est très bon marché, ou alors ils mangent même le fruit de leur cueillette, de leur pêche, de leur chasse, et pour eux la nourriture ultra transformée en fait elle n'existe pas, quoi, parce que c'est un produit de luxe totalement inaccessible.
Alors dans votre livre, Audrey, on apprend que 380 millions d'enfants dans le monde mangent à leur faim, voire trop. Vous parlez même du fléau de faim insoupçonnée. Ça veut dire quoi, ça?
Alors ça, c'est un terme, c'est une expression qui est assez paradoxale, hein, mais les enfants qui souffrent de faim insoupçonnée, ils ont une alimentation suffisante au niveau calorique, voire même excessive, mais elle est complètement dénuée des vitamines et des nutriments qui vont être nécessaires au bon développement de l'enfant, hein, le développement physique, intellectuel, le bien-être. C'est une notion qui a été mise en valeur par dans la dernière enquête sur l'alimentation des enfants dans le monde qui a été menée par l'OMS et l'UNICEF. Mm-hmm. Et en fait, aujourd'hui, ça concerne au bas mot 380 millions d'enfants dans le monde. C'est-à-dire que c'est un enfant sur deux de moins de 5 ans est concerné.
Alors, on pense toujours aussi, Audrey, que la malbouffe, ça a pour conséquence le surpoids et l'obésité chez nos enfants, mais pas seulement. Racontez-nous ce que ça peut faire.
Alors, en fait, effectivement, le surpoids et l'obésité, c'est un peu la conséquence visible, évidente. Hein. Ceci étant dit, je voudrais juste revenir une seconde dessus. Hein. C'est une conséquence assez grave parce qu'elle prédispose en fait au développement de maladies comme le diabète de type 2, les troubles du squelette. Elle peut aussi être à l'origine de beaucoup de souffrances psychologiques qu'il faut vraiment pas minimiser dans la vie des enfants. Mm-hmm. Mais effectivement, les carences qui sont liées à la faim insoupçonnée ont des effets qui vont être moins visibles, mais tout aussi délétères. Hein. On va avoir en fait des enfants qui vont souffrir d'un déficit de croissance, qui peuvent souffrir de troubles du comportement, de troubles de la personnalité. Ils vont être de mauvaise humeur, grincheux, ils vont avoir des difficultés d'apprentissage ou des difficultés de concentration à l'école. Mm-hmm. Ils peuvent avoir une immunité altérée, ouais. De la fatigue. Enfin, vraiment, on peut avoir une liste qui est très très longue, ouais. De symptômes. Mais ces affections, elles sont toutes invalidantes. Certaines sont même franchement handicapantes. Et du coup, là, on touche vraiment à la vitalité des enfants.
Alors, docteur Jérémy Lafrère, vous êtes en studio avec nous. On a tendance à oublier d'expliquer à nos enfants à quoi ça sert tout simplement de manger. Qu'est-ce qu'on doit leur dire très concrètement à nos petits ?
Oui, alors c'est un des messages du livre. On a eu tendance à considérer que les comportements alimentaires des enfants, c'était quelque chose d'assez simple, quasi pavlovien, un peu comme ces histoires de comportementalistes. Et en réalité, on s'est aperçu que dès 2-3 ans, les enfants étaient capables de comprendre qu'il fallait manger différents légumes et différents fruits parce que ces différents légumes et ces différents fruits contenaient des petites particules qui avaient des fonctions différentes sur les parties de leur corps. Certaines pouvaient renforcer leurs os pour jouer au foot, d'autres améliorer leur vue. Et certaines tentatives donc, d'éducation alimentaire... ont capitalisé sur ces connaissances-là, ont essayé de les transmettre aux enfants et ont remarqué que ça induisait des changements vraiment très positifs en termes de choix alimentaires.
Donc très bien et très clairement leur expliquer les choses, ça fonctionne. On va continuer cet entretien dans un instant sur l'alimentation de nos enfants. Vous allez entendre que notamment le fameux 5 fruits et légumes par jour, eh bien, il est tenable en réalité, mais à condition d'être des parents un peu malins. On va vous donner toutes les meilleures astuces pour y parvenir sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous êtes sur Europe 1 et c'est Bien fait pour vous, votre émission dans laquelle on prend soin de votre vie quotidienne, mais également et surtout à cette heure-là, tous les jours, c'est votre santé que l'on chouchoute, et plus particulièrement ce matin, celle de vos enfants. Et pour en parler, deux experts du sujet. D'abord, elle est en ligne avec nous, c'est Audrey Zucchi. Vous êtes entrepreneuse et l'autrice du livre La faim des haricots.
Faim, F-A-I-M, attention.
Ah, évidemment. Et puis le docteur Jérémy Lafrère, docteur en sciences cognitives à l'Institut Paul Bocuse. Alors, docteur Lafrère, quand mon enfant ne souhaite pas manger tel aliment au prétexte qu'il n'aime pas, est-ce qu'il faut le croire ? Est-ce que les enfants ont les mêmes goûts que nous, les adultes ? Expliquez-nous.
Ma fille, elle dit « je suis allergique aux carottes et je suis allergique aux choux-fleurs ». Mais c'est faux, évidemment.
Ouais, elle n'est pas au chocolat,
non,
bizarrement.
C'est ça.
Alors, c'est la grande question, bien sûr. Moi, je travaille particulièrement sur la principale barrière psychologique à la variété alimentaire, ce qu'on appelle la néophobie alimentaire ou la sélectivité alimentaire. En fait, c'est les enfants pénibles à table et qui deviennent pénibles vers 2-3 ans alors qu'ils mangeaient tout auparavant. Mmh. Et on s'aperçoit que c'est un vrai phénomène chez la plupart des enfants et on a toutes les raisons de les croire. C'est-à-dire qu'on parle de phobie, mais ça a été mesuré. C'est-à-dire que c'est vraiment des instants d'angoisse et de peur pour les enfants, ces situations alimentaires. Et tout notre travail, c'est d'expliquer pourquoi ça apparaît à ce moment de leur développement.
Vers 2-3 ans, donc, vous dites. Mais il y en a, ils le gardent adulte. Hein, parce que moi, je connais certains adultes et toujours allergiques aux épinards, par exemple.
Absolument. Hein, ouais. Des fois, ça passe et des fois, ça passe pas. Ouais. Et c'est quand ça passe pas que ça devient un problème de santé publique, puisque ça peut être un facteur de risque de développer des troubles du comportement alimentaire par la suite.
Alors, Audrey, vous êtes toujours avec nous, Audrey Zucchi. Un enfant doit manger comme un adulte ou pas ? Alors, c'est plutôt pas, j'imagine. Mais quelle est la répartition, en tout cas, pour un enfant, on va dire, aller de 6-7 ans, par exemple ? En termes de glucides, de lipides.
En fait, un enfant de 6-7 ans a besoin de beaucoup d'énergie. Donc, la moitié de son alimentation va être constituée de glucides. L'idée étant quand même que ce soit des glucides, en fait, qu'il va pouvoir intégrer avec pas mal de fibres. Et à peu près 40% de lipides qui vont être très importants pour développer, en fait, son cerveau. Et puis, 10% de protéines, animales ou végétales, sans problème.
On rappelle que les glucides, ce sont les sucres. Bon, donc, plutôt des bons sucres. Et les lipides, c'est tout ce qui est gras, hein, plutôt, c'est ça?
Exactement.
Alors Audrey, c'est quoi le meilleur petit déjeuner selon vous ?
Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout au long de la journée, notre corps, il est en mode pilotage automatique. C'est-à-dire que le corps sécrète un certain nombre d'hormones qui vont en fait venir accompagner des réactions physiologiques. Donc le matin, on sécrète du cortisol, de la noradrénaline, qui vont nous permettre en fait de nous mettre en alerte pour la journée.
Ouais, c'est ça.
Exactement. Et où du coup, le meilleur petit déjeuner, ben c'est celui qui va nous permettre d'apporter de pouvoir potentialiser toutes ces hormones dans notre corps. Donc, on va essayer en fait d'avoir un petit déjeuner qui va se baser en fait sur d'abord s'hydrater parce que ça va faire 9, 10 ou 11 heures que l'enfant n'a pas bu. Donc, c'est très important en fait pour que le cerveau fonctionne bien. Ensuite, pas trop de glucides parce que le matin, le corps est très sensible à l'insuline. Et puis, on va accompagner la sécrétion de dopamine, de noradrénaline avec des protéines.
Mais ça donne quoi en termes d'aliments concrètement? Voilà, un œuf, d'accord?
Alors, ça peut être un œuf, ça peut être un yaourt de brebis, du fromage blanc, on peut avoir un petit lait au soja chocolaté.
Tout ça, moi, mes enfants, ils aiment pas du tout. Hein. Il y a, dans les céréales, par exemple, il n'y a pas quelque chose qui se passe. Oui. Si je leur dis brebis, ils vont faire berk, soja, berk. Donc, je sais pas trop là.
On peut avoir des petits cookies faits à base de flocons d'avoine, pour le coup, avec des petites pépites de chocolat. On peut manger effectivement des fruits secs, des amandes, sans problème. On peut aussi faire des gâteaux réalisés à base de farine ou de purée d'oléagineux. Ça va être très bon pour eux aussi. Les crêpes ou les pancakes à partir de farine de lupin, de coco, de pois chiches, sans souci, oui.
Bon, d'accord. Ça, c'est le petit-déj, Audrey. Mais à 4 heures au goûter, qu'est-ce qu'on peut leur donner? Le chocolat, on peut quand même. C'est bien à cette heure-là, non?
Et c'est même carrément conseillé à cette heure-là. Hein. Ah. Le goûter, en fait, c'est ce qui va permettre aux enfants de reprendre de l'énergie après une après-midi d'apprentissage. Donc, il faut absolument des glucides, des encas sucrés. Et pour le coup, l'après-midi, effectivement, on va aussi pouvoir préparer une soirée calme en accompagnant en fait les hormones, la sérotonine, c'est l'hormone du calme, et la mélatonine qui va intervenir plus tard, qui va être l'hormone du sommeil. Donc à partir de ce moment-là, le soir, en tout cas au goûter, on va proposer des cookies, on va pouvoir proposer une banane, qui va vraiment accompagner ces hormones-là, des oléagineux, des produits laitiers, on peut faire ou des rochers coco, vous voyez un petit peu les bounties faits maison, ça aussi c'est super bon pour eux. Ouais.
Docteur Lafrère, on sait tout ce qu'on vient de dire. Là, quand elle a dit cookies, pancake, rocher coco, tout ça, ça nous parle et ça parle à nos enfants et aux bébés surtout. Pourquoi les tout-petits comme ça ont une appétence pour le sucre? On l'explique?
Oui, on l'explique tout simplement par l'évolution. Votre cerveau est câblé pour aimer ce qui est important dans la vie, c'est-à-dire le sucre et le gras. Parce qu'il fut un temps, c'était très adaptatif, comme ils disent, de réagir positivement à ces stimuli-là. Alors évidemment, ça c'était vrai pour les chasseurs-cueilleurs, mais dans un environnement alimentaire tel qu'on le connaît maintenant, cette préférence pour le sucre et le gras peut engendrer certains problèmes.
Oui, mais docteur, est-ce qu'on est câblé, est-ce que les enfants sont câblés pour aimer les légumes? Parce que ça aussi, c'est pas évident. Hein. Vous dites que ça, en fait, ça se passe pas dans la cuisine, mais dans la tête, les légumes. Alors ça, j'ai du mal à comprendre. Vous avez même une étude où des chercheurs ont montré des images de carottes et de poireaux à des tout petits. C'est quoi les résultats?
Alors, je...
Ils ont vomi immédiatement après les images.
Ils n'ont pas vomi. Je vous ai dit qu'on était pré-câblé pour aimer le sucre et le gras, mais on est aussi câblé pour vraisemblablement pour se méfier des plantes.
Ah oui.
J'ai des collègues qui travaillent avec des bébés. Quand on leur présente des plantes par rapport à d'autres objets, on s'aperçoit qu'ils en ont les jetons, quoi. C'est-à-dire qu'ils mettent du temps avant de toucher les plantes.
D'accord.
Un brocoli, ça fait super peur en même temps.
Brocoli,
je suis d'accord.
Le brocoli fait peur.
Alors
donc
que
on
la frite est rassurante.
Exactement, exactement. Et donc ça pourrait persister sous la forme des rejets alimentaires dont on parle dans le livre, qui ciblent principalement les fruits et les légumes. Mm-hmm. C'est-à-dire bon, il y a des barrières sensorielles. Déjà, c'est amer. Les enfants aiment pas l'amertume. Ça fait pas partie du câblage pour lequel on est fait. Mais il y a aussi une méfiance innée envers les végétaux. D'accord. Et les psychologues pensent que c'est un mécanisme de protection parce qu'il fallait se méfier des plantes certaine époque.
Donc en gros, on a peur des brocolis, par exemple, parce que la forme et la texture peut avoir un impact sur les préférences des enfants. Mais alors comment, s'il vous plaît, comment on les arnaque pour faire manger des brocolis? On n'a qu'à changer sa forme et là, ça va marcher. Pour le brocoli, par exemple, qu'est-ce qu'on fait?
Alors, mon conseil, c'est de ne pas les arnaquer. C'est-à-dire qu'il faut arrêter...
Moi, je suis partie dans l'arnaque direct.
Il faut arrêter les leurres alimentaires.
Moi, je cache des brocolis sous plein de pâtes, en fait. Et après,
la stratégie du camouflage, on en discute dans le livre, c'est pas conseillé non plus, parce que si vous avez un enfant avec des difficultés alimentaires, de toute façon, les mélanges, il va les rejeter. Il vaut mieux plutôt présenter différents aliments, appréciés, d'autres inconnus, maintenir un espace entre ces aliments-là pour faciliter la reconnaissance et donc l'acceptation, puisque généralement, dans le domaine alimentaire, on aime ce qu'on connaît et on rejette ce qu'on ne connaît pas. Donc il faut d'abord envisager l'alimentation comme un espace d'apprentissage, présenter sans contrainte ni pression les aliments, éviter les stratégies de camouflage, et en principe, tout va bien se passer.
Bon, faites surtout pas comme moi. Quoi,
oui,
en fait.
Bah, on a tous fait comme vous, Mélanie. Un autre moyen de faire aimer les légumes à nos enfants, c'est de faire des associations entre aliments. C'est ce qu'on appelle le food pairing. Comment ça marche? Et par exemple, est-ce que je dois associer pour faire aimer les betteraves à ma fille? Je sais pas, moi, Mélanie, elle a une petite fille, elle aime pas les betteraves, votre fille.
Audrey Zucchi, qu'est-ce qu'on fait alors avec ce système-là d'association entre aliments?
Ah ben c'est super, justement, en fait, la betterave, ce qui est génial, en fait, c'est que effectivement c'est un aliment qui est pas toujours aimé par les enfants, sauf que on va pouvoir lui associer des aliments qui vont pouvoir rehausser, casser un petit peu le côté terreux. Par exemple, associez-y de la framboise, ça va encore accentuer la jolie couleur de la betterave. Vous en faites une jolie purée avec de la framboise, ou vous faites une salade de betterave en cube froide avec un condiment à la framboise. Et là, pour le coup, vous allez avoir un côté terreux qui va être complètement cassé. Mais effectivement, il peut y avoir d'autres associations. On va pouvoir avoir des associations qui vont être plutôt crémeuses, c'est-à-dire qu'on peut y associer du yaourt, du fromage de chèvre, on peut y associer du bacon. On vous propose comme ça, sur un certain nombre d'aliments, en fait, plusieurs associations dont elles sont reconnues comme étant des exhausteurs de goût ou, en tout cas, des modificateurs de goût qui vont permettre à l'enfant de plus apprécier cet aliment.
Non, mais ça, c'est
sans
bonne...
pour autant effectivement le dénaturer, parce que c'est important qu'il le reconnaisse pour apprendre in fine à l'aimer. Mais bien ne sûr. Vous découragez pas, parce que vous savez, au bout de plusieurs présentations à l'enfant, il finira forcément, et ça c'est la science qui nous le dit, par aimer l'aliment.
Bon. Vive les betteraves.
Pas de découragement alors.
Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés ce matin, et surtout pour cet éclairage sur l'alimentation des plus jeunes et sur les méthodes qui fonctionnent vraiment pour leur faire avaler enfin des brocolis et des betteraves, terminer les grimaces à table normalement avec tout ça. Enfin, on va essayer de tester ça à la maison avec Mélanie et on vous dira.
À présent, Julia, on va accueillir notre bande de chroniqueurs pour la séquence tendance. D'abord, on parlera gastronomie avec le chef Abdel Alaoui qui nous propose ce matin un voyage culinaire qui devrait plaire, lui, justement, aux enfants aussi. Voyage au pays des boulettes. Il y aura
bien sûr
des conseils, des recettes faciles pour faire chez vous. Et puis le docteur Aurène Marco, notre docteur beauty, s'adressera à ceux et celles qui ont peut-être abusé des boulettes avec les dernières techniques chirurgicales pour retrouver un ventre bien plat, bien lisse. Et enfin, on va se bouger comme tous les mardis avec notre coach sportif Jean-Marc Delorme, avec les exercices qu'il a préparés. On va avoir un boule qui chamboule.
Ah,
c'est pas moi, c'est lui qui le dit. A tout de suite sur Europe 1. Il est midi sur Europe 1. Le programme d'Europe Midi avec vous, Romain Desarbres. Bonjour Romain.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous. Voici le programme d'Europe Midi. Emmanuel Macron veut réindustrialiser la France. Il vient de le dire, le président de la République qui a dévoilé un grand plan à 30 milliards d'euros. Ça s'appelle France 2030. Alors comment seront dépensés ces milliards? D'où viennent-ils? On verra ça en détail avec Carole Ferry. Le prix du gasoil flambe. On bat un record avec un litre à 1,53€ en moyenne. Et ça devrait continuer à grimper, notamment au moment des vacances de la Toussaint. On ira dans une station-service à Strasbourg et puis on sera en direct avec un spécialiste des prix des carburants. Un dramatique accident de TER près de Saint-Jean-de-Luz. 3 migrants qui se trouvaient sur les voies ont été tués ce matin à l'aube, aux alentours de 5h du matin. Un quatrième homme est blessé, on sera sur place. 3700 postes supprimés chez Société Générale et Crédit du Nord qui fusionnent. Aucun licenciement. On verra comment la banque de demain va fonctionner. Ce qui est certain, c'est qu'on ira de moins en moins au guichet. Et puis Neymar a le blues. Il pourrait arrêter sa carrière l'année prochaine. Qu'est-ce qui ne va pas chez la star brésilienne? Les informations de Jean-François Pérez dans Europe Midi. Voilà le programme, on se retrouve dans une demi-heure. À tout à l'heure.
Europe 1.
Merci beaucoup Romain, on vous retrouve à 12h30.
Europe 1.
11h, 12h30.
Bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
De retour dans Bien fait pour vous, votre émission bien-être dans laquelle le mieux vivre est au centre de tous nos sujets. Tout de suite, c'est la partie tendance de ce magazine et ça démarre toujours midi oblige par de la gastronomie. Aujourd'hui, ce sont les conseils du chef Abdel Alaoui qu'on va entendre. Abdel, j'ai dit juste avant qu'on allait se faire du bien au pays des boulettes. Ah, mais oui. Des boulettes à quoi d'ailleurs?
À tout, il y a du poulet, il y a du cabillaud, il y a du bœuf, il y a le bœuf d'Aubrac. C'est que des produits français.
Oh, ah,
c'est les Français, fermiers.
Oh, voilà. Mais en plus des recettes de boulettes, moi qui suis nulle, je suis sûre que ça va m'apporter. C'est facile la boulette, on roule, on met des trucs dedans.
On met tout dedans.
C'est génial.
Et on boule.
Je prendrai des notes et on va bouler. Je suis sûre que tout le monde aime ça à la maison. Ensuite, ce sera votre tour, docteur Auren Marco, docteur beauty pour les intimes. Alors, quand on abuse des boulettes, on peut avoir besoin de vous. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui?
Bon, comment on va faire pour récupérer un ventre plat?
Ah bah voilà.
Alors, après les boulettes ou après une grossesse?
Ah, d'accord. Oui, aussi, c'est une autre forme de boule, de certaine façon. Et puis enfin, on clôturera ce tour de table de l'émission avec vous, Jean-Marc Delorme, avec le petit programme sportif que vous nous avez concocté. On va les éliminer, fissa, les boulettes, mais surtout au niveau des fesses, hein, je crois.
Exactement, au niveau des fesses, pour avoir des très belles fesses, rondes, rebondies, bonheur, quoi.
Bon. Kim Kardashian.
Merci, ouais. Jean-Marc. On vous retrouve dans quelques minutes pour vos conseils sportifs, mais tout de suite, on va passer à la dégustation. Enfin, j'espère, ça sent déjà très bon dans ce studio. Bien fait pour vous, se met à table.
Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances.
Allez, on démarre donc ce moment particulièrement convivial, savoureux de notre émission, la partie tendance de ce magazine. Et donc, c'est vous qui allez nous régaler en premier ce midi, Abdel Alaoui, parce que les boulettes, c'est trop chouette. Vous avez vu, j'ai fait une rime et tout.
Les boulettes, c'est trop chouette. Et comme disait ma mère, tout ce qui est à la mode se démode, mais tout ce qui est démodé revient à la mode.
Elle avait raison. Toujours comme... de sa mère.
Elle m'a tellement dit de trucs, je vais raconter ça toute l'année d'ailleurs. Elle avait raison, comme toujours, ça s'appelle du coup le vintage. Hein.
Ah bah oui.
Et quoi de plus vintage que.
Il y a comme un goût de flec chez les mots. Sur les ondes, alors ouais, on déconne, ouais, on étonne, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non. Génération, non.
Oh, génération non, ouais, c'est trop bien.
Ça fait toujours du bien.
Ça fait du bien. Ah ouais, les boulettes, alors on peut tout mettre dans sa boulette. Hein. Qu'elle soit grosse, petite, au bœuf, à l'agneau, au poulet, au tofu, complètement végétarienne, avec des épices mijotées, grillées, ou juste à la vapeur, comme ça c'est un peu plus léger quand même.
Ah génial, ouais. Celle-là est valide, hein, le docteur Auren Marco.
Ouais, mais c'est validé ça.
Moi, je... à la vapeur, ouais. Oui, bien sûr.
Pas mal, avec du cabillaud. Donc vraiment, on peut la rendre légère cette boulette. Bref, la boulette aujourd'hui, ça va être ta fête. Alors elle est hyper tendance. Elle revient à la mode, on en trouve partout, hein. Même dans certains bistrots. Est-ce que vous connaissez l'ami Jean, par exemple?
Je sais pas
si vous
connaissez. C'est un resto,
petit bistrot.
Ouais, très sympa.
Alors, au Stéphane Gégaud, donc le chef revisite la boulette.
C'est à Paris, hein.
Carotte de son enfance en mode boulette surprise. Alors, il met un morceau de carotte dans cette viande hachée, dans le bœuf. Il referme tout ça, il la fait passer dans la chapelure, paf, et frit, et ça colore, et ça devient. Il y a un mélange de croustillant et de fondant.
Et d'arnaque pour les enfants. En plus, ils mangent de la carotte.
Ah ouais.
Moi, j'adore, je reste sur mon arnaque quand même.
On peut mettre vraiment n'importe quel légume dans cette boulette surprise. D'ailleurs, la plupart des chefs, ils reprennent juste la recette de leur mère, de leur grand-père, de leur grand-mère. C'est un peu la boulette de Proust. C'est un peu ça. Hein. Mais moi, je vais vous parler de cette boulette que ma mère nous préparait tous les deux jours, tellement c'était bon, en plus des pois chiches, évidemment. Alors, elle est préparée avec un peu de bœuf, de l'agneau, du persil, de la coriandre, beaucoup d'ail, un œuf pour lier tout ça, et elle boulait ça avec ses petites mains. Elle avait une odeur de vacances, de soleil, d'épices, de bonheur. Elle déposait ça sur une bonne sauce tomate de chez Leader Price. Et vraiment, et c'était
vous
tellement
avez,
bon.
Vous avez été bien nourri quand vous étiez petit.
Mais hyper bien,
hein,
j'ai jamais mangé à la cantine.
Non,
mais
c'est
vraiment,
génial.
On l'invitera un jour, votre maman.
Maison
hein.
Et tout.
Abdel,
elle est là derrière la porte, on peut l'entendre.
Je me tourne en plus pour vérifier. Abdel, est-ce qu'il existe plusieurs façons? Bien sûr, on a noté celle de votre maman, hein, qui a l'air délicieuse, mais est-ce qu'il y a plusieurs façons de faire des boulettes, hein? Julie, elle a un stylo à la main, là, elle attend vos conseils.
Alors, on sait que c'est hyper compliqué d'avoir des boulettes hyper fondantes, c'est ça le petit truc de la boulette. On a tendance à laisser cuire longtemps dans un coulis tomate, elle mijote assez longtemps, et du coup, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient toute...
Sèche,
voilà. Et c'est
quand ça
dur,
cuit
toi.
Trop, après la viande n'est pas bonne dedans.
Il
ouais.
faut vraiment les griller rapidement.
Mais moi j'ai toujours peur qu'elles ne soient pas assez cuites non plus, donc c'est compliqué quand même à faire.
Alors j'ai l'astuce pour vous.
La boulette parfaite.
Pour réaliser la boulette parfaite, qui tienne et qui reste fondante en bouche, j'ai ma petite astuce, ingrédient secret. C'est la mie de pain.
Ah mais ça on savait.
Oui, les grands-mères.
On a la mie de pain, on a le riz, on a de la semoule. Si jamais vous faites beaucoup de couscous, il reste de la semoule ou du boulgour. On peut le mélanger aussi avec cette viande hachée. Alors le pain qui soit sèche ou juste fondant comme ça. Alors ce qui est bien en plus c'est écologique puisque on récupère ce pain tout sec. On va mélanger à cette farce.
Mais on le mouille le pain.
Adèle, fais tourner un peu la boulette.
Il y a du bœuf là.
Adèle, moi comme le docteur Beauty, j'avais entendu dire qu'il fallait le tremper, le pain, par exemple, dans du lait, non?
On peut le faire tremper dans du lait, évidemment.
Alors, moi, j'ai de la boulette de poulet, c'est ça, c'est possible?
On mélange.
Il y en a des oranges, il y en a des blanches.
Il y a bœuf. Le blanc, c'est le cabillaud à la vapeur, justement, ce que je vous ai dit.
Ah, génial, j'ai pris le plus léger, moi.
Et là, c'est patate douce. Là, c'est patate douce, le végétarien.
Voilà. Donc, vous voyez, il en prend jamais.
Il y a de la sauce.
On peut rester hyper léger. Alors, ce pain, on peut aussi le mixer, en faire une chapelure et le manger avec cette farce. Là, on mange des petites boulettes de chez Boulette. Alors, eux, ils sont rue Saint-Denis. Le chef, il s'appelle Kevin Ostry. Il a été formé au Ritz. Bon. Il a décidé de s'occuper de cette carte des restaurants Boulette. Donc, la spécialité, c'est des boulettes. On mélange vraiment de tout. Des kefta, des polpettes, des fricadelles, des albandigas aussi. C'est des petites boulettes espagnoles. Et c'est tellement bon.
Est-ce qu'on peut revenir sur la cuisson? Excusez-moi, j'ai la bouche pleine. Sur la cuisson de la boulette. Parce que comment on fait? On la saisit puisqu'il ne faut pas la faire cuire trop longtemps. C'est
alors,
quoi le secret?
Moi, le petit secret, vraiment, prenez une petite poêle, un tout petit peu d'huile d'olive ou du beurre. Alors, j'ai entendu dire que vous mélangez le beurre et l'huile d'olive.
C'est une bonne idée, écoutez, c'est les autres jours, quand vous n'êtes pas là. Hein.
Non, je trouve que c'était
une super idée. Moi, c'est juste parce que j'arrive pas à choisir. Hein. Si je mets les deux parce que j'aime les deux. Je mets du beurre et de l'huile.
Et comme disait Marouane, effectivement, ça évite que le beurre brûle. Oui. On jette ces petites boulettes qu'on a boulées dans cette poêle, on les colore légèrement et après, on prépare un petit coulis, comme ça, avec de la tomate, du basilic, du thym, un peu de sel, de l'huile d'olive. Et vraiment, rapidement, on laisse mijoter à peine 2-3 minutes dans ce coulis de tomates et on obtient des boulettes hyper fondantes.
Monty, j'ai une petite question. On parle de sauce tomate qu'on va faire maison, là, pas de leader. Pas de ce qu'on a dit tout à l'heure. On l'a fait nous-mêmes, la sauce tomate. Est-ce que c'est vrai qu'il faut mettre un sucre dedans ou pas?
On met le sucre pour enlever un peu l'acidité, de la tomate. Ouais. Je le fais pas parce que je le fais quand c'est la saison des tomates, donc elles sont assez sucrées. J'en achète par caisse parce que le maraîcher va vous vendre des tomates hyper abîmées. Vous les récupérez.
Ça se congèle bien en plus, la sauce tomate maison.
Vous les mettez en bocaux, ça reste 6 mois, ça bouge pas.
Donc vaut mieux le faire quand les tomates, c'est la saison.
Exactement, Abdel. Est-ce que vous avez quelques livres à nous conseiller? Il y a des trucs
Non, alors malheureusement, non, j'ai pas eu de livre.
Vous avez bien expliqué, on a bien noté la mie de pain, on la fait pas forcément tremper, on a
mélangé
la cuisson.
Plusieurs viandes aussi, on peut mélanger.
Plusieurs viandes. Alors, si vous voulez apprendre à faire des belles boulettes, on peut acheter le livre Jérusalem d'Ottolenghi et c'est hyper bien. Franchement, il explique tout de A à Z.
Alors, le docteur Marco.
Compliqué quand le livre. C'était
c'était compliqué il y a 5-6 ans, mais autant tous les épiciers turcs, kurdes, on retrouve facilement des
épices. Ouais.
Vous aimez la boulette?
La boulette en
j'adore la boulette, mais je trouve que c'est génial pour faire manger les enfants, parce que moi, mes filles, elles mangent que des frites et des. Veulent que manger des frites. Et c'est vrai que la boulette, c'est facile pour les enfants.
C'est ludique, c'est hyper amusant. On peut les faire bouler les boulettes et les manger.
Notre spécialiste avant a dit qu'il ne fallait pas faire le camouflage avec les enfants.
Mais là, on peut même les faire avec eux, les boulettes.
On les fait avec eux, on choisit la farce qu'on veut, on les boule, on peut faire des keftas, donc on les écrase légèrement avec sa main. Et c'est marrant parce qu'on peut dessiner comme ça un visage sur l'assiette avec deux petits yeux avec les
ludique.
Boulettes. Le ketchup, le sourire, un ketchup maison évidemment.
On sent le papa quand même, on sent qu'il a l'habitude.
Je me fais avec mes enfants.
Bon, mais merci Abdel pour tous ces conseils, ces astuces pour réaliser nos propres boulettes délicieuses et toutes simples. C'est ce qu'on veut ici, vous faciliter la vie, y compris en cuisine. À présent, on va basculer dans le monde de l'esthétique. Quoique, en fait, on y était déjà parce qu'une boulette, trop mignon, une boulette.
Elles sont belles, ces boulettes.
Mais là, avec le docteur Aurène Marco, c'est notre ventre qui va se refaire une beauté. Et puis encore du beau au programme. Avec notre coach Jean-Marc Delorme et ses conseils sportifs pour des fesses bien musclées, bien galbées. On est dans la rondeur ce midi sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30 et notre tour de table des tendances continue avec nos trois chroniqueurs, trois hommes en plus ce midi pour prendre soin de nous. On a été bien gâtés niveau plaisir gustatif déjà avec le chef Adel Alaoui qui est toujours avec nous d'ailleurs. Et à présent, plus beaucoup les boulettes. Et à présent, on va se tourner vers notre docteur préféré, docteur Aurène Marco. On vous écoute parce que vous allez nous parler du ventre plat. Comment faire pour récupérer son ventre après une grossesse par exemple.
Une grossesse. Plutôt, on va plutôt se focaliser sur les mamans.
Pas sur l'excès de boulettes.
D'accord. C'est vrai que une maman qui accouche, elle a évidemment pris pendant 9 mois un peu de gras. La peau s'est distendue, les muscles se sont distendus.
Et c'est bien et c'est normal. On ne fait pas de régime quand on est enceinte. On est d'accord.
Il faut laisser le temps au corps d'une femme, au corps d'une jeune maman, de se remettre. Et puis, on sait qu'il y a différents facteurs sur lesquels on peut ne pas jouer. De toute façon, il y a des facteurs comme ça intrinsèques. Si c'est une première grossesse, le ventre pourra se remettre un petit peu plus facilement. Si elle était sportive de base, avec une sangle abdominale...
À la deuxième, Julia, ça va beaucoup moins vite, je vous le dis.
Je la connaîtrai.
Julia n'a fait qu'un, je crois.
C'est ça.
La déjà prise galérée. De poids pendant la grossesse, si elle allait ou pas, et également si elle a eu son retour de couche. Une fois qu'on a tous ces éléments qui sont revenus. Il y a aussi, c'est pas très facile pour une jeune maman de reprendre le sport ou un régime quand le bébé dort pas, qu'il faut faire les nuits, qu'elle doit aussi souvent conjuguer le rôle de mère de famille la nuit et puis reprendre le boulot. Donc il faut se donner du temps, il faut pas se presser. Bon. Et si ça prend 6-8 mois, bah ça prend 6-8 mois.
Alors, même un an, oh oui. Hein, pourquoi pas, on culpabilise.
Nos grand-mères, elles disaient qu'il fallait autant de temps pour perdre du poids que la grossesse, donc 9 mois.
Exactement.
9 mois.
Ah ouais. 9 mois.
Bon, quand tous les facteurs, on va dire, sont au vert, là, on a repris le boulot, on va mieux, on a le périnée est bien en place, voilà. Le bébé dort. Qu'est-ce qu'on doit faire ?
Alors déjà, il faut savoir qu'on a soit un excès de graisse, donc quand on a un excès de gras, bah, il faut faire un régime soit équilibré,
rééquilibrer son alimentation,
soit si on veut vraiment perdre, il faut faire de l'hypocalorique, donc ça, vous avez des consultes de nutritionnistes pour cela. On a également un taux d'eau, de surcharge hydrique dans le corps qui est important, donc c'est vrai que c'est très sympa si on peut se permettre de se faire drainer chez le kiné ou dans d'autres praticiennes avec des drainages lymphatiques qui permettent vraiment de sécher au maximum le corps.
Sinon, passer les boulettes sur les cuisses, ça draine peut-être. Le palper.
Elles sont mal bien les cuire avant.
Mais dites-moi, c'est vrai, on est gorgé d'eau après un accouchement ?
On est gorgé d'eau et effectivement, il y a nette amélioration quand on vient d'accoucher. Si vous faites drainer très rapidement après, vous pouvez perdre très rapidement.
Ah, c'est un bénéfice. D'accord, et on perd de l'eau et on perd de la graisse aussi.
Et on perd un peu de graisse. La graisse, c'est vraiment le régime hypocalorique, reprendre un petit peu l'activité physique, le cardio. Mais après, ce qui se passe bien souvent, c'est que malgré tout cela,
ressemble encore à un ventre de femme enceinte pendant un petit moment. À 4 mois, 5 mois de grossesse.
Voilà, petit ventre de femme enceinte. Et souvent, voilà, le motif de consultation principale, c'est je ne comprends pas, j'ai accouché il y a 2 ans et puis on me laisse la place dans le métro, on me laisse la place dans le bus.
L'enfer.
Et c'est un peu un enfer, on ne sait pas si je suis enceinte ou pas. Alors qu'est-ce que c'est ça ? Des fois, souvent, les femmes pensent, elles viennent me voir pour une liposuction, etc. Je leur explique que non, ce sont les muscles grand droit de l'abdomen qui se sont écartés pendant la grossesse et qui ont eu du mal à revenir.
C'est ce qu'on appelle le diastasis.
Exactement. Alors, pour traiter ce diastasis ou au moins commencer à le traiter, il y a nos profs de sport, nos kinés,
nous sommes là,
et avec une technique notamment, je crois que tu connais bien, les hypopressifs, les abdominaux hypopressifs. Ce serait bien qu'un jour on en parle.
Mais c'est quoi
ce serait
rapidement,
génial.
Rapidement,
ouais, c'est quoi Jean-Marc hypopressif, abdos hypopressif ?
C'est tout ce qui concerne le périnée, pour tout le maintien.
Un type d'exercice, voilà,
c'est
par
des
exemple.
Exercices où on inspire fortement et on contracte fort.
C'est ça, le pilate. Généralement, on fait, oui, exactement. Donc c'est le pilate et puis parfois on utilise un des mouvements, c'est le pont par exemple, vous savez, lorsqu'on monte les fessiers vers le haut.
Ça, c'est de l'abdo hypopressif.
Exactement.
D'accord.
Parce que les femmes, elles veulent avoir non pas des abdos épais comme les hommes avec des tablettes de chocolat, mais le ventre plat. Donc c'est vraiment important de resangler la sangle interne.
Mais quand ça marche pas,
si malgré le pont, l'hypopressif,
tout ça, les muscles sont écartés, donc c'est là où on peut aller consulter un chirurgien, mais on vient le consulter uniquement quand on a fini ses grossesses, d'accord, qu'on est sûr de ne plus vouloir d'autres enfants.
On ne fait pas d'abdominoplastie si on a encore des projets.
On ne fait pas d'abdominoplastie si on a encore des projets. L'abdominoplastie, c'est une opération qui consiste donc à faire. Il y a une cicatrice en bas cachée dans la culotte, on décolle toute la peau.
C'est lourd comme intervention, il faut le dire.
Donc ça ne se prend pas du tout à la légère et on referme tous les muscles abdominaux. Vous avez 2-3 semaines pour vous en remettre, voire plus. Il y a des risques de phlébite,
etc. C'est une des opérations de chirurgie esthétique pour laquelle il y a le plus de complications,
Complications,
donc il faut le savoir avant de se lancer.
La chirurgie, certainement la chirurgie en esthétique qui est la plus lourde et la plus risquée. Donc si on le fait, il faut déjà avoir bien. C'est pour ça que je vous ai parlé de toutes les choses auparavant, bien avoir perdu du poids, essayer d'avoir fait le maximum pour arriver à un poids le plus bas possible pour éviter ce risque de surcomplications qui sont majorées avec la prise de poids.
Et ça fait mal ?
Très mal.
Ça fait très mal.
On est honnête, hein, dans bien
on
fait
est honnête.
Vous,
c'est une intervention qui fait très mal, mais maintenant, les progrès de l'anesthésie,
vous savez gérer la douleur.
On gère très bien la douleur, on aide beaucoup les patientes, il y a des pansements réguliers pour contrôler tout cela.
C'est pas de la tarte. Hein.
Mais c'est pas une petite intervention.
Et vous pensez, docteur, dans les magazines People, tout ça, on les voit, toutes les stars américaines, le ventre plat, c'est presque un concours sur les réseaux sociaux, c'est horrible.
Elles viennent
d'accoucher et au bout de 3 semaines, elles ont un ventre plat. Elles se font opérer, celles-là ou...
Eh bien, on peut se poser la question et je crois avoir entendu effectivement qu'il y a eu déjà des abdominoplasties pendant des césariennes pour
comme ça.
Et après, je ne sais pas si c'est légende ou en tout cas en France, certainement pas.
En tout cas, c'est pas recommandé, on est d'accord.
C'est absolument pas recommandé, c'est extrêmement dangereux. Il faut laisser son corps reprendre le dessus.
Et oui, on en profite pour dire on refait pas ses seins pendant l'accouchement également. On est raisonnable.
Voilà.
Merci beaucoup, docteur Aurène Marco, pour cet éclairage précis, utile et clair. Alors, le ventre, évidemment, vous pouvez nous aider pour ça, Marco, mais aujourd'hui, vous avez préféré nous parler de quelque chose qui se trouve plus
Jean-Marc
bas.
Delorme, pas Marco. Jean-Marc
oui,
Delorme.
Parce que moi, dans la vie, je l'appelle Marco, mais c'est Jean-Marc Delorme. Effectivement, Jean-Marc Delorme, on va parler des fessiers aujourd'hui, comment les avoir galbés. Rebondit.
Un boule qui chamboule, vous nous avez promis.
Un boule qui chamboule, en boule boom short. Exactement. Alors, les fessiers, c'est évidemment un des muscles, enfin, c'est trois muscles, en fait, mais très important dans notre anatomie. Hein. Alors, Kim Kardashian l'a évidemment très bien compris.
Elle, elle a mis le paquet. Hein.
Voire trop.
Ça fait beaucoup.
D'accord. Alors, nous, on va éviter, comme ça, de devenir, dans quelques années, plutôt des culbuteaux, hein, mais avoir quelque chose d'assez...
tonique.
Tonique et puis bien dimensionné, bien proportionné. Alors, on va donner plusieurs conseils pour ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est déjà les fessiers, c'est trois muscles. Alors maintenant, on n'appelle plus les fessiers, on appelle ça les muscles glutéaux.
Ah, bon,
c'est
comme
ça, c'est une nouvelle nomenclature.
Enfin, c'est très facile.
Alors, il y a le petit fessier, le moyen fessier et...
Le gros fessier.
Mais moi, j'ai non, pas le gros. Gros. Ah, c'est grand. Moi, je crois que j'ai que ce fessier.
On évite les gros fessiers.
Moi, c'est le gros. Chez moi, c'est le gros, mais normalement, c'est le grand.
Donc,
bon, hormis du côté esthétique, est-ce que les fessiers sont des muscles qui sont importants en sport, par exemple?
Non, mais c'est un des muscles les plus importants. Ah. Des fois, c'est un peu difficile à dire quand on a surtout un public masculin de dire on va faire les fessiers.
Ils sont pas friands de ça,
les mecs
qui
nous regardent genre.
Non, ah non, c'est pas vrai. Moi, je suis très à l'aise avec ça.
Ouais, c'est vrai.
Ah ouais. Et
c'est beau des belles fesses.
C'est un tort parce que c'est évidemment un des muscles les plus importants quand on voit Usain Bolt qui part.
Il a des bonnes,
fusée,
bonnes fesses bien musclées. Hein.
C'est qu'il a des fesses très musclées. Et tout vient des fesses et j'en veux pour preuve que on ne pourrait même pas tenir debout si on n'avait pas les fessiers. Voilà, c'est
pour ça qu'on est si stable, Julia et moi. Hein.
Ouais,
nous, c'est bon.
Même
partant de grand vent, on bouge pas avec mes lignes.
Évidemment, c'est un muscle très sollicité.
Si tu rajoutes une boulette et on est ancré.
Vu comment je reste sérieux quand
la
même,
chronique que je prends 10 000 calories. Quoi.
Mais alors comment on fait pour justement, Jean-Marc, avoir un fessier vraiment bombé, mais bien proportionné? On n'est pas dans la disproportion des Américaines.
Alors, j'y viens. Je termine juste. Je voulais juste dire que c'est hyper important pour la course à pied, le vélo, le sport de combat. Et c'est le muscle le plus gros du corps. Et c'est pas le plus puissant, comme on peut le croire. Le plus puissant, c'est la langue.
Ah,
c'est dingue.
C'est vrai.
Ah, voilà.
Bon, alors les fesses bombées de Julia.
Alors, les fesses bombées de Julia.
Non, enfin, c'est ce qu'elle demandait. Quoi. Parce que pour l'instant, c'est semi-bombé.
Donc, lorsqu'on veut les fesses bombées, on va travailler quoi? On va travailler le grand fessier. Voilà. Mmh. Alors, avec des exercices très simples, tout le monde connaît le squat.
Ouais. Mmh. Julia, peut-être.
Hein, ah, le squat.
Ah, le squat.
Donc, jambes écartées, debout. Voilà. Jambes, vous pouvez l'avoir sur
europe.fr. Voilà. Voilà.
On fait comme si on s'asseyait sur les toilettes ou sur une chaise.
Exactement. Bien le poids sur les talons. On regarde devant et on a le dos bien droit. Et elle fait très bien. Toujours pareil, je vous l'avais déjà dit une fois. On descend doucement, on remonte vite pour pas attraper les grosses cuisses. D'accord, mais ça va être très très bien pour avoir les fesses bombées. Et puis il y a un exercice qui marche aussi super bien, c'est la fente surélevée.
C'est quoi? Alors, ça décrivez-nous.
Vous mettez en fente et le pied
en avant, par
qui
exemple,
est voilà,
ça, voilà,
et le pied qui est derrière, vous le posez sur un petit promontoire, une chaise, un tabouret, ce que vous voulez.
Évident,
d'accord,
donc
vous allez avoir le pied surélevé et là vous allez avoir un travail des fessiers. Je vous raconte.
Et là,
pas.
Fait quoi? On monte,
voilà,
on descend.
Julia fait ça très très bien.
Merci.
Et là, c'est vraiment...
on alterne d'une jambe et l'autre pour muscler les deux fesses,
jambe et l'autre, c'est mieux. On peut faire des répétitions entre 12 et 20. Et puis, à la fin des 12 et 20 répétitions, on attend quelques secondes pendant 10 secondes en isométrie en bas. Et là, vous allez voir.
En isométrie, ça veut dire quoi?
En isométrie, ça veut dire statique sans bouger.
C'est là, horrible, parce qu'à cet endroit-là, d'un seul coup, ça brûle.
Ça brûle, ça brûle.
Et alors, voilà. Si au lieu de vouloir les fesses bombées, je veux les fesses arrondies, là, je fais quoi?
Alors là, on va travailler le moyen fessier. Évidemment, vous avez compris, hein, l'idéal, c'est de travailler les deux pour avoir des fesses mythiques. Envie de dire. Donc là, on va travailler les moyens fessiers. Donc, c'est les faces externes, d'accord? Alors là, c'est tous les exercices qu'on peut faire.
En fait, c'est un peu la culotte de cheval, non?
C'est ouais,
pas
c'est ça.
Pour pas trop la voir, en fait.
Hein.
Ouais, c'est ça.
Donc là, on va ces exercices en quadrupédie à quatre pattes, d'accord? On va tendre, par exemple, exactement.
Ouais,
on va tendre une jambe et puis on va faire rotation pointe de pied.
Ah, ça fait très
bien. Jambe tendue d'un côté, puis on va changer le sens de rotation. Pareil, on peut faire des petites isométries, c'est-à-dire du statique pendant quelques secondes. On fait ça 15 rotations à droite, 15 rotations à gauche, on change de jambe. Voilà, là. Et puis tout ce qui est abduction, à les abductions, c'est les jambes qu'on dirige vers l'extérieur.
Sans
les
poids,
battements sur
c'est
l'extérieur.
Bien de mettre des poids.
Alors, c'est bien de commencer sans poids parce qu'au départ, par rapport au dos, il faut quand même que s'y habituer. Puis après, effectivement,
on peut mettre des poids.
Oreilles, on peut mettre des poids.
Le Dr Beauty est un grand sportif.
Non, moi, je fais des hip thrusts.
Mais je le sais.
Vous connaissez les hip thrusts?
Non, c'est quoi ça?
Ça, c'est pour faire travailler, je crois, le petit fessier. Ou en tout cas, c'est pour soutenir la fesse.
Non, nous l'a pas celui-là, le petit.
Mais je vous conseille d'aller sur l'Instagram du Dr Beauty, vous verrez tous ses entraînements et vous comprendrez pourquoi il peut manger autant de boulettes. Merci Jean-Marc, merci à
avec
tous les
plaisir.
Trois pour ces bons plans, ces conseils beauté ou culinaires qu'on va tenter évidemment de refaire chez nous. Ce soir, il y aura des boulettes pour tout le monde. En attendant, bien fait pour vous, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain dès 11h, bien sûr. Et Mélanie, quel sera le programme?
Eh bien, Julia, demain, on va se concentrer sur ça.
J'ai pas envie de manger, j'ai pas envie de me laver.
Bon, ça, c'est ma fille, elle est charmante, je vous jure. Hein. On dirait pas comme ça, mais presque tout le temps charmante. Bref, vous avez connu ça, j'en suis sûre. Vous aussi, les crises des enfants au supermarché, avant d'aller au lit, à l'heure du bain. Ça peut nous mettre à bout, soyons honnêtes. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions, notamment du côté de l'hypnose, pour retrouver son calme. Calmer ses enfants, ben oui, une fois qu'elle est hypnotisée, elle va dans le bain, quoi. Il y a plus de... On va vous expliquer comment mettre tout ça en pratique. Ça sera demain.
Et demain, Mélanie, il y aura aussi de nouveaux sujets tendances et évidemment de la santé. D'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages sur notre compte Instagram ou sur le répondeur de l'émission au 3921. À suivre, c'est Europe Midi avec Romain Desarbres.